Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré à la musique sacrée, à la musique liturgique. Alors de but en blanc, je vous le dis tout de suite, je vous ai souhaité un bonjour, mais je le regrette presque, parce que j'aimerais que pendant les 26 minutes qui suivent et pendant lesquelles nous serons ensemble, nous passions un moment le plus désagréable possible en cette semaine de carême. Bien entendu, je dis cela parce que c'est un temps grave, un temps de pénitence, un temps de remise en question, et alors je me suis demandé quel serait le thème qui serait le plus approprié pour que vous et moi on se mette, si j'ose le dire, dans l'ambiance. Et je me suis dit que l'un des thèmes peut-être les plus marquants et les plus forts que nous pouvions avoir, c'était celui de la douleur et de la peine au travers des larmes. Et alors je me suis posé la question de quel morceau je pouvais employer autour de ce thème-là, et naturellement, quelques chefs-d'œuvre me sont venus à l'esprit. Alors je m'excuse par avance, ces œuvres sont extrêmement célèbres, connues, mais vous allez l'entendre avec une lecture différente, peut-être allez-vous les apprécier différemment. Alors sans plus attendre, nous allons commencer avec la première œuvre, il s'agit du début du Stabat Mater de Pergolèse. Alors bien entendu, vous l'attendiez presque, hein. À partir du moment où je parle de larmes, je pense que c'est tout de suite ce qui vient à l'esprit quand on parle de cette douleur-là. Bien entendu, le Stabat Mater de Pergolèse fait partie du panthéon de la musique sacrée, de la musique liturgique, c'est un monument à lui tout seul. C'est d'autant plus fort que Pergolèse, quand il écrit ça, c'est l'une de ses dernières œuvres, et ensuite il a été emporté peu après par la tuberculose, il avait 26 ans. Donc là aussi, imaginez le talent et la sensibilité de ce compositeur génial, au fait de sa gloire musicale, mais qui est également, hélas aussi, le fait de sa vie. Alors voici le texte que vous allez entendre chanter en latin. Elle se tenait dans la douleur, près de la croix en larmes, tandis que son fils était suspendu. Bien entendu, vous l'avez reconnu, c'est la douleur maternelle, la douleur de Marie qui regardait Jésus, son fils, le Christ, crucifié sur la croix. Et là, bien entendu, avec ce texte d'une tristesse infinie, la musique au service du texte est bien entendu tout aussi expressive, et notamment dans le Stabat Mater de Pergolèse. Alors vous allez l'entendre assez rapidement, l'analyse musicale va parler d'elle-même. Ce que je vous propose, c'est pour une fois, je ne vais pas vous présenter l'œuvre avant, vous allez d'abord l'écouter, vous la mettre dans l'oreille, et ensuite je vais pouvoir vous en parler. Donc là, on a une version qui est assez spéciale, vous allez le comprendre ensuite après, qui est chantée par une soprane et une voix d'homme qui chante la voix d'alto, en l'occurrence celle de Philippe Jarouski, que certains d'entre vous bien sûr connaissent déjà. Il s'agit du chœur de la radio-télévision suisse avec l'ensemble Ibarokisti dirigé par Diego Fazzolis.
Thank you.
incroyable version du Stabat Mater de Pergolèse que vous avez ici, avec un talent musical extrêmement prononcé qui met bien en avant tout ce dont je vais vous parler maintenant pour l'analyse musicale et la compréhension de cette œuvre. Il y a trois plans sonores que vous devez distinguer. La première, c'est ce qu'on appelle le continuo. Ensuite, ce que vous avez au-dessus, ce sont les violons qui le jouent. Et ensuite, bien entendu, le thème vocal. Alors, on va commencer par cette basse continue. La basse continue, elle est ici interprétée par un orgue. Alors, c'est un petit orgue dans un petit meuble. On appelle ça un positif. Et également, avec quelques cordes graves, qui jouent cette espèce de marche inexorable vers la mort. Yam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Extrêmement régulier, implacable, presque fatidique finalement. Et c'est cette ambiance-là qui va donner cette ambiance mortuaire justement. Et ça, c'est le rôle total du continuo qui laisse cette infrastructure, armature, implacable, cette marche presque comme si c'était l'annonce d'une marche funèbre. Ensuite, vous avez le deuxième plan sonore que sont les violons. Et alors là, les violons, bien entendu, c'est une utilisation des instruments qui est extrêmement savante, tant il est vrai que le violon, quand il est bien utilisé, peut être un instrument qui magnifie la souffrance. Effectivement, avec les cordes, il y a ce côté très animal, les boyaux frottés avec le crin de cheval des archers, il y a un côté très, très vivant et mort en même temps, qui donne cet aspect très angoissant de la corde frottée. Et là, effectivement, cette angoisse est d'autant plus prégnante qu'il y a des dissonances qui se font entendre, ces dissonances si désagréables à l'oreille, comme les écharde du bois de la croix dans la chair du Christ, ou également comme ce poignard qu'avait promis le prophète à la Vierge quand elle était allée le visiter. La douleur est là, tout de suite, présente, dès le début. Et ensuite, il y a bien entendu les voix, et là encore, elles viennent s'immiscer dans la musique, exactement comme les violons, finalement. Elles viennent sublimer le thème qu'ont lancé les violons, et là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la naissance de ce Stabat Mater, qui est incroyablement précis. Vous l'avez entendu d'ailleurs, les chanteurs font très peu de vibrato, c'est-à-dire très peu de vibrations. La voix reste le plus droit possible, très pure, comme si effectivement il y avait cette volonté, devant cette vision d'horreur finalement, de courage de mère qui est debout au pied de la croix, malgré la douleur immense qui est la sienne. C'est un tour de force véritable, en plus d'une musique d'une immense beauté, et je vous invite à le redécouvrir. Bien entendu, écoutez l'entièreté du Stabat Mater de Pergolèse. Il y a là des musiques d'un tel niveau, c'est extraordinaire, et il y a cette espèce de boucle qui se boucle, je vous le fais pas entendre, mais l'avant-dernier morceau, avant le Amen final, le Quando Corpus Morietur, qui parle effectivement de cette mort du corps, eh bien, se situe dans la même tonalité que ce premier morceau, ce Stabat Mater. Il y a, comme ainsi dire, une boucle qui est bouclée, cette espèce de cycle de la vie qui commence et qui se termine dans les bras de la Vierge. On peut naturellement à ce moment-là penser à la fameuse sculpture de la Pietà. Pensez notamment par exemple à celle de Michel-Ange, qui est extraordinaire parce que, pour la petite anecdote, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais si vous dépliez, si vous mettez debout dans la Pietà du Michel-Ange, le Christ et la Vierge, ils ne font pas du tout la même taille. La Vierge est beaucoup plus grande que lui, elle fait plus de 2 mètres, alors que le Christ, lui, fait 1,70 m ou 1,80 m de mémoire. Et il y a ce côté extrêmement enveloppant de la mer, d'ailleurs, qui donne son manteau au Christ. Il faut se rappeler que peu avant, il a été vêtu d'un grand manteau de pourpre. Le manteau de la Vierge est celui maintenant qui le recouvre, qui le protège. Et il y a dans cette dimension de protection, de courage, quelque chose d'extraordinaire dans cette puissance féminine, dans cette puissance de la douleur maternelle, ici superbement retranscrite par le compositeur Pergolèse, encore une fois, qui a composé ceci en étant extrêmement jeune pour remplacer le Stabat Mater de Scarlatti, qui était un petit peu vieillissant à l'époque. Il a eu cette volonté extraordinaire de mettre en musique l'un des textes les plus fantastiques de la musique chrétienne. C'est d'ailleurs un texte qui est assez moderne, hein, faut le savoir. Là, c'est pas dans la première chrétienté, c'est un texte qui est bien plus tardif, qui est un texte théologique d'ailleurs, et qui devait donc être parfaitement mis en musique dans ces temps-là. Voilà donc un chef-d'œuvre signé Pergolèse que je vous invite à découvrir dans son entier. Ici, c'est une version que j'aime beaucoup, non seulement parce que il y a une sorte d'apnée dans la façon dont les cordes jouent, avec cette espèce d'étranglement vocal que nous pourrions avoir, et également le fait assez véridique que donc une femme chante la voix de soprane, mais c'est un homme, Philippe Jarouski, qui chante la voix d'alto. Effectivement, à l'époque, c'était des castrats qui s'en occupaient, donc des hommes, avec ces voix qui aujourd'hui, ce timbre qui s'est perdu, mais cette espèce de teinte qu'on n'entend nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous restituer cette version-là, qui approche peut-être un petit peu celle que nous pouvions avoir à l'époque avec les castrats. Voilà donc pour cette première partie d'émission consacrée aux larmes, et on va là aussi se diriger vers un autre tube, si j'ose dire, de la musique, une œuvre absolument extraordinaire. Il s'agit du Lacrimosa, du Requiem de Mozart. Alors bien entendu, là aussi, je suppose que vous vous y attendiez presque, mais encore une fois, quand on a des clés de lecture, eh bien peut-être qu'on entend l'œuvre différemment, parce que naturellement, le Lacrimosa de Mozart, je suis certain que vous l'avez entendu des dizaines et des dizaines de fois, tellement l'œuvre est célèbre. Alors parlons un petit peu de ce Requiem de Mozart, qui n'est d'ailleurs pas du tout le Requiem de Mozart. En fait, il n'en a composé qu'une partie, un peu plus de la moitié, et une autre partie a été composée par d'autres musiciens, et en particulier le Lacrimosa. Alors, la première mesure a été composée par un autre musicien. Il faut savoir que donc Mozart n'a pas écrit le Lacrimosa, mais c'est sa femme, Constance, qui s'est dirigée vers d'autres musiciens, et en particulier l'une des personnes qui avait eu des cours avec Mozart, Süssmayr. Alors, auparavant, elle ne s'était pas dirigée vers Süssmayr, puisqu'il s'était un petit peu brouillé avec Mozart, mais finalement, c'est lui qui va terminer cette partition, et de manière ô combien magistrale, comme vous allez pouvoir l'entendre. Donc le Requiem de Mozart, vous le savez, c'est sa dernière œuvre, c'est son testament musical. Là aussi, on reste dans les fins un petit peu tragiques des compositeurs qui ne terminent pas leurs œuvres ou qui meurent juste après. En l'occurrence, Mozart est mort pendant la réalisation de cette œuvre, donc il ne l'a jamais vue achevée. Donc ce Requiem, c'est, je vous le disais, son testament musical, son œuvre peut-être la plus aboutie, et le Lacrimosa, lui, c'est comme une œuvre un petit peu hors du temps, elle s'inscrit dans l'œuvre de Mozart, sans être de la main de Mozart, on peut y voir là aussi peut-être la main du destin. Alors le Lacrimosa, c'est une partie un petit peu spéciale de la musique. En fait, il s'agit dans le Requiem d'un extrait en fait de la fin du Dies Irae, la colère pardon divine. Je vous fais la traduction du texte latin. Jour de larmes que ce jour-là, où ressuscitera de la poussière pour le jugement l'homme coupable, à celui-là donc pardonné, ô Dieu, doux Jésus Seigneur, donnez-leur le repos. Amen. Donc là, on entre dans une autre dimension qui est celle de la messe des morts, bien entendu. Donc on s'adresse aux défunts avec cette supplique qui est de faire pitié. Vous allez l'entendre immédiatement. Il y a quelques codes que va reprendre Mozart dans ce... Enfin, Mozart, Süssmayr, mais on va dire Mozart pour la beauté du geste, dans ce Lacrimosa. Vous allez l'entendre, il y a un côté très octant, presque, avec le son un petit peu percussif et ce côté ternaire. Presque comme si, là aussi vous avez cette ambiance de continuo, si j'ose dire, toujours par trois. C'était exactement la même chose d'ailleurs chez Percolèse, qui représente finalement les trois clous qui sont plantés dans la chair du Christ et qui laisse ensuite laisser libre cours à la voix. Et là aussi, vous allez l'entendre, il y a comme des sanglots. Qua resur. Vous allez l'entendre, il y a cette espèce de supplique, de sanglots, comme si la voix s'étranglait par elle-même et comme si il n'était impossible de chanter face à la douleur qu'il a superbement exprimée par Mozart. Et donc vous allez l'entendre avec d'une œuvre extrêmement contrastée et qui termine, c'est là le plus fort, par un Amen glorieux qui indique celui de la résurrection. Voici donc sans plus attendre le Lacrimosa du Requiem de Mozart.
Thank you.
glorieux pour un morceau absolument extraordinaire, le Lacrimosa du Requiem de Mozart, magnifiquement interprété ici. Il ne faut pas oublier effectivement que quand on parle de mort, notamment dans le monde catholique, il y a toujours cette espérance de la résurrection, notamment dans le temps du carême, ne l'oublions pas. Et maintenant, nous allons nous diriger vers la dernière œuvre que je vous veux faire découvrir ou redécouvrir pour certains, un petit peu moins connue celle-ci, quoique elle a été rendue très célèbre notamment grâce à un film, celui de Terrence Malick, L'Arbre de Vie, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Je vais vous parler d'un extrait du Requiem for My Friend d'un compositeur polonais, Zbigniew Preisner, qui est sorti en 98. Alors c'est une œuvre absolument extraordinaire, ce Requiem for My Friend, parce que l'histoire en est absolument bouleversante. En fait, c'était une œuvre qui, au début, était entre ce compositeur, Preisner, et un de ses grands amis, qui s'appelle Krzysztof Kieslowski, et en fait, ils ont eu l'idée de mettre en scène la vie avec les grandes étapes de la vie, le début, le destin, l'apocalypse, même un post-scriptum en sorte de testament musical. Et en fait, Kieslowski se serait occupé de la réalisation et Preisner, lui, bien entendu, de la musique. Sauf que, voilà, l'ami de Preisner est mort et le projet n'a pas pu aboutir. Et alors, à ce moment-là, Preisner a eu l'idée génial de lui rendre un hommage. Il a conservé cette architecture de la vie, mais il a composé en plus de cela un requiem pour son ami, d'où le nom Requiem for My Friend. Donc, il y a toutes les grandes étapes du requiem, qui d'ailleurs sont chantées en latin, à l'exception notable d'un seul morceau qui est le Lux Aeterna, qui est chanté en polonais, mais sinon, tout est chanté en latin, presque comme une messe en la mémoire de son ami. Et alors, bien entendu, je vous propose de découvrir le Lacrimosa, qui est une pièce absolument splendide et magnifique, avec une seule soliste, une soprane, et avec toute la puissance de l'orchestre et également de l'orgue. C'est une œuvre immense, une œuvre cathédrale presque, qui montre la douleur, mais en même temps l'espérance. Vous allez l'entendre, quelque chose qui combat l'injustice finalement. Il y a ce côté incompréhension totale face à la perte d'un être cher qui est ici magnifiquement sublimé par la musique. Je vous laisse donc découvrir le Lacrimosa de ce fameux Requiem for My Friend de Preisner.
Lacrimosa, lacrimosa, lacrimosa.
cette dernière supplique avec cette fantastique accord mineur qui résonne longtemps dans l'église, qui nous montre la puissance de ce lacrymosa qui commence comme un très long crescendo, comme un sanglot qui devient de plus en plus pressant, de plus en plus violent et qui s'exprime à travers l'immensité du temps et de l'espace. Voilà, mesdames et messieurs, pour ces trois œuvres et pour ce thème autour des larmes. Évidemment, le sujet a été presque un petit peu provocant, mais il se situe dans le contexte de la musique liturgique que vous connaissez dans le carême. La semaine prochaine, nous continuerons et nous terminerons notre chemin dans le carême avec quelques extraits autour du chemin de croix que vous aurez, je pense, beaucoup de plaisir à écouter tant le texte est évocateur. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous rappelle que vous pouvez venir à la Basilique Saint-Sernin pour les offices de la Semaine Sainte, qui seront chantés par les chœurs de la Schola Cantorum, le jeudi saint par le chœur grégorien, et le vendredi, la vigile pascale ainsi que la messe de Pâques du soir seront chantés par le grand chœur de la Schola Cantorum, que je dirigerai là aussi. De belles pièces du répertoire, toujours au service de la liturgie, seront mises en place pour que vous puissiez avoir les plus beaux offices, les plus priants. D'ici là, donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.